Couleur Terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture, et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir, ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.
La question des semences est au cœur des débats sur l'autonomie alimentaire. À l'heure de la biologie autoproclamée de synthèse, terme trompeur nous faisant croire que quelqu'un aurait créé de la vie de toutes pièces, on voudrait nous faire croire que la dite création devrait être soumise à des droits proches du droit d'auteur, et semer ses propres récoltes serait un acte de faussaire et de piraterie. Quel renversement de l'accusation, quel culot! Et à quel point de recherche de la moindre monétisation faut-il être pour en arriver là? Alors que la cultivation est exemplaire dans sa création d'abondance, la luxuriance qui naît de quelques graines bien soignées est ahurissante, et c'est à ces quelques graines que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Aux fruits, origine de nos fruits, vos semences, comment les produire, les conserver, en prendre soin, bref, comment arriver à se passer de Monsanto et de l'imagrin, et larguer les preneurs d'otages génétiques qui mériteraient beaucoup plus que d'autres le qualificatif d'éco-terroriste. Nous sommes aujourd'hui avec Valérie Avadian. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Qui est technicienne de semences, elle nous expliquera peut-être de quoi il s'agit. Mais d'abord, c'est le moment des réponses à vos questions, questions que nous prenons sur les réseaux, mais que vous pouvez adresser à question@radioperma.org. Je n'ai pas dit bonjour à Titane, bonjour Titane.
Bonjour Floem.
Et à moi.
Et bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors, première question de Claire Guerrier, qui avait déjà posé une question il y a quelques temps. L'an dernier, pour ma première année, j'ai eu quelques mésaventures désagréables. J'ai recherché des solutions. J'ai choisi celle prévue. Alors oui, une mésaventure désagréable avec des limaces. C'est une question un peu longue, donc je vais la couper. Qu'est-ce que vous pensez du fait de mettre des légumes fanés, fanes de carottes, feuilles de salade abîmées, et ainsi que de l'eau quand le temps était sec dans des tuiles? Est-ce que ça paraît une idée judicieuse ou pas?
Oui, moi je trouve que toutes les idées qui permettent de ne pas se bagarrer contre les ravageurs, mais plutôt de les attirer à l'extérieur de là où ils nous embêtent, on va dire, eh ben c'est une bonne idée.
Je suis d'accord. Rajoutons de l'information dans notre système plutôt que de la couper, essayer de tailler le morceau. Joe Rigaud nous écrit, dernière question, deuxième question, mes deux jeunes plants de tomates semi-spontanées à partir de ceux de la saison passée jaunissent beaucoup, en priorité les feuilles les plus âgées, mais ça s'étend, ça n'est pas a priori un surplus d'eau car je les arrose vraiment peu, essayant de les laisser se débrouiller, mais un soleil très violent entre 12h et 15h peut-être, je me suis résolu à leur offrir un peu d'ombre. Qu'en pensez-vous? Brûlure, maladie?
C'est difficile à dire comme ça sans voir, etc. Mais je pense, en tout cas, c'est pas le soleil. Parce
alors,
que la tomate,
il a mis des photos pour... avec sa question, mais c'est vrai que même avec ces photos-là, ça, c'est pas très parlant.
Oui. Mm. Donc, en tout cas, je pense pas que ce soit le soleil, parce que la tomate est faite pour pousser quand même au soleil et elle craint plus l'humidité. Et bon, peut-être que c'est quand même des champignons, peut-être comme c'est des repousses de tomates, elles sont plus fragiles. Mm-hmm. Bon.
Peut-être.
Difficile à dire, en tout cas c'est pas de les mettre à l'ombre qui, à mon avis, enfin, moi je ferais plutôt des préparations de prêles ou d'aquilées ou quelque chose comme ça pour, ou bien peut-être même de l'ortie ça dépend si la plante est vigoureuse ou pas, parce qu'on peut avoir des feuilles jaunes et être vigoureux et avoir des, plantes jaunes, des feuilles jaunes et pas être vigoureux, donc voir un peu comment se comporte la plante, si elle n'est pas assez vigoureuse, faire peut-être un ou deux extraits d'ortie et puis voilà, les bichonner un petit peu, enlever les parties malades.
Extrait d'ortie, extrait fermenté.
Oui, extrait fermenté d'ortie, oui. Et puis peut-être de la prêle. Petite recette.
Allez, vas-y.
Donc, bah, la celle de l'extrait d'ortie, hein, c'est un kilo d'ortie, donc les extrémités d'ortie, dans un litre d'eau, dans 10 litres d'eau, un kilo pour 10 litres. Et on met ça dans un endroit. Donc, c'est un peu long à expliquer parce qu'il faut la qualité de l'eau aussi. Il faut bien peser, prendre une eau de bonne qualité. Et ensuite, mettre ça dans un récipient à l'ombre d'un arbre ou quelque chose. Et donc, au bout, entre 5 et 15 jours, on va dire, selon le moment où il est fait. Quand on voit qu'il n'y a plus de bulles du tout et que ça ne fermente plus, on prend l'extrait, on le dilue et on le pulvérise.
On le dilue à combien ?
10% pour l'ortie.
Ok. Un litre de préparation pour 10 litres d'arrosoir.
Oui, c'est tout 10, donc. Okay. Voilà. Après, ce qui est important, c'est la qualité de l'eau et enfin, bon, des critères qu'on verra.
Je dis 10 litres d'arrosoir, mais ce serait en pulvérisation plutôt ?
Bon, on peut arroser aussi, hein, mm-hmm. mais pour, si c'est l'ortie, c'est mieux en pulvérisation. Si mm-hmm. c'est la prêle, elle sera plutôt sur le sol.
Ok. Alors, Michel Conti, bonjour à tous. En essai d'une butte avec mon fils de 9 ans, j'aimerais savoir si mon idée de rajouter un mélange nettoyage poulailler et clapier, fiente plus paille et crotte de lapin plus foin entre le bois pourri et ma terre est intéressante. En attente de conseils, par avance, merci de vos retours. Bonne journée à tous. Alors, rajouter du fond de poulailler entre le bois pourri pour faire de la butte. Alors, qu'est-ce que... Elle est morte de rire.
Parce que c'est pas très appétissant son truc.
Non, ça a pas l'air, ça donne pas très. Le bois pourri déjà, je suis
déjà,
pas.
Déjà voilà,
le
bois
mais
pourri.
Mais c'est pas ça qu'on mange, hein.
Oui. Non. Pas ça qu'on mange, mais quand même dans une butte, il se passe des choses plus appétissantes quand même.
Oui.
Donc déjà le bois il pourrit pas, il se transforme en humus, donc déjà c'est pas de la pourriture. Ensuite là, son mélange de foin, de fiente et tout ce qu'on veut, moi je le mettrais pas dans la butte, je le mettrais à l'extérieur, je le ferais composter, donc en arrosant, en faisant un tas de compost.
En bonne et due forme.
En bonne et due forme, voilà.
Écoutez notre émission sur le compostage et la matière organique.
Voilà. Et puis donc, quand le compost sera demi-mûr, c'est-à-dire au bout d'environ une semaine, ou enfin, selon la saison, c'est pareil, une dizaine de jours, et ben de le, à ce moment-là, de le mettre sur le bois et avant de mettre le compost plus mûr.
Sachant que là, s'il met du bois pourri dans ses buttes, moi, ça, ce que ça m'évoque, c'est ces buttes, on appelle ça les buttes farcies, je crois, avec, où ils mettent du bois à l'intérieur, mais sauf que c'est une technique à la base qui est plutôt de, me semble-t-il, de milieu un peu tropical où le bois se dégrade très rapidement.
Ah non, la culture, la technique de culture sur butte en biodynamie, par exemple.
Mais buttes, oui, mais buttes farcies avec du bois dedans.
Oui, mais on fait ça, on met du bois ou en tout cas des broussailles, des choses ligneuses au fond. Mais c'est pas pourri, ça peut être éventuellement déjà en cours d'humification.
Vérification, mais quand tu parles de bois, c'est des bûches, quelle
taille ? Ça peut être, il y a des gens qui mettent des gros bouts de bois. Mm-hmm. Disons que le principe, c'est de mettre de la matière organique de plus en plus transformée quand on va vers le haut de la butte. Mm-hmm. Et au fond, on peut mettre des petits bouts de bois, des gros bouts, on peut mettre ce qu'on veut. Ça sera la durée qui sera différente, et puis voilà. Moi, quand j'en fais, je mets plutôt de la broussaille, des petites branches de 2 cm de diamètre, etc., mais qui sont bien sèches.
Moi, ça, mettre de la broussaille ou même des petits, de la
des
fascine,
de bois, même
ou des
comme
choses
ça,
comme
hein,
ça, ouais. Ou des déchets de taille. C'est pas ça que j'appelle du bois.
Non, parce que là, c'est vert ce que tu dis. Moi, je mets du bois sec.
Non, moi, c'est séché. C'est-à-dire que quand j'ai mis mes déchets de tonte, de coupe, je les ai laissés sécher dans un coin. Laisser sécher dans un coin, c'est difficile à dire ça. Mais quand j'imagine des gens qui mettent des troncs qui font 25-30 cm, qui font des buttes là-dessous, moi, je me dis un peu, oups, pour le temps de décomposition de la chose quand même. C'est pas forcément.
Donc ça va se transformer avec beaucoup de temps. Ouais. Donc si tu mets un gros tronc d'arbre, après, tu vas mettre des branches de moins en moins grosse, et puis après tu mettras de la matière organique à demi transformée, donc il faut prévoir plus profond et plus de temps. Mais
okay.
Ça peut se faire.
Bon, en tout cas, pour votre nettoyage de poulailler et clapier, Michael, mettez plutôt tout ça au compost avant de répandre là-dessus sur votre butte. Valérie Masson nous envoie cette question. Bonjour, quelqu'un saurait-il m'indiquer comment commencer à planter et quoi sur un sol de latérite? Valérie Masson, bon courage. Alors la latérite, pour ceux qui ne savent pas...
Oui, ça fait comme une croûte en fait. Hein. C'est une transformation du sol et ça fait une croûte qui est dure. C'est impossible à traverser comme ça. Donc c'est effectivement difficile. Là, c'est pareil, il faudra beaucoup de temps. Et moi, ce que je ferais à ce moment-là, c'est faire comme sur un support inerte pour le coup, c'est-à-dire en mettant du compost et puis après en mettant de la paille ou en couvrant avec un végétal ou autre. Parce que si elle part de la territe en France, c'est quand même pas beaucoup d'endroits.
Non, peut-être c'est peut-être pas. Elle est peut-être pas en France.
Peut-être dans
hein.
le Sud-Est.
Non, cette question-là, je pense que c'était sur le réseau Afrique Permaculture.
Ah,
oui, peut-être récupéré. Oui. Donc ça se trouve, c'est peut-être, elle est peut-être en climat.
Ben, en principe, elle était à la territe. La territe, oui, c'est l'Afrique de l'Ouest.
C'est, voilà, c'est plutôt suite à une déforestation et puis derrière, il y a eu la pluie.
La pluie et puis un manque de matière organique, mais dans la durée, quoi. Donc faire un peu comme des lasagnes, quoi, poser dessus, et puis peut-être jamais essayer, hein, mais peut-être qu'avec le temps, ça casserait la croûte. Et
recréer du sol, quoi, en somme. Hein.
Oui, apporter un sol tout fait, on va dire, et puis peut-être qu'avec le temps, la croûte va se ramollir et que la vie va renaître dans le sol, parce qu'un sol latéritique, déjà, il est dur comme du bois, et en plus, il est mort. Hein.
Bon courage, Valérie, et recréer du sol avec ce que vous pouvez utiliser comme matière organique par chez vous. Merci beaucoup pour les réponses à ces questions et puis on va s'écouter un petit bout de musique.
Il a le front qui transpire et il tremble de peur. Il n'a rien vu venir, il est déjà l'heure. L'heure du bilan final, les comptes à donner, des coffres d'argent sales, des factures à payer. Il a beaucoup détruit, il n'a rien créé, il n'a rien entrepris, il a tout copié. La chaise électrique, la marée noire, l'épuration ethnique pour quelques années. Le pouvoir reste la pire aux yeux, illusion. D'avoir compté un peu, d'avoir eu l'affection des quelques gens honnêtes qu'il a pu acheter. Si quelqu'un le regrette, il n'est pas encore né.
Commence un nouveau procès à quelques semaines des législatives. Une affaire de corruption de témoins. Il
Moi, les gens qui m'attirent sont purs et sincères, les âmes qui m'inspirent sont courageuses et fières. Ils ouvrent leurs yeux, ne jugent jamais, ne se prennent que pour eux, sont authentiques et vrais, car le côté obscur, c'est le choix des faibles, c'est aller dans le mur que de vouloir s'y perdre. Et le vrai pouvoir, c'est la liberté, c'est croire que l'on peut croire sans jamais oublier que même. J'ai tort, je n'ai pas peur de perdre. Que savoir être fort, c'est pouvoir être faible. J'aimerais pourtant lui dire. Et lui, il se meurt, il n'a rien vu venir, il est déjà là.
100 000 dollars sur un compte en Suisse. De corruption de témoins.
Couleur FM 97.1. Vous venez d'entendre BRG de leur album L'Esprit de l'Oiseau Vert, un titre qui s'appelle Check-up terrestre. Voilà, nous sommes avec Valérie Abadzian pour parler semences aujourd'hui. Une question toute simple, c'est quoi une semence? C'est quoi une graine?
Ça, c'est une bonne question, parce que quand je fais mes formations, en fait, je commence avec cette question. Et c'est pas moi qui donne les réponses, je pose la question aux stagiaires qui viennent à la journée de formation.
Bon, on peut essayer de faire les stagiaires.
Ça va peut-être prendre plus de temps.
Ouais, alors mais... vas-y, donne-nous la réponse directement.
Bah, déjà, une graine, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que c'est un cycle aussi. Mes formations, ça s'appelle de la graine à la graine. C'est-à-dire qu'on sème une graine et qu'on va aller jusqu'à récolter la graine. Donc ça veut dire que pour plein d'espèces, c'est voir les plantes jusqu'à leur stade final et qu'on ne voit pas d'habitude au jardin. À commencer par les légumes racines, par exemple les carottes. La carotte, c'est la racine, donc c'est la première partie que fait une plante. Hein, si on suit le cycle de la graine à la graine, en fait, on va voir qu'on sème la graine. La graine, à l'intérieur de la graine, il y a tout le potentiel énergétique, la réserve pour la plante, la future plante qui va germer, sortir de la graine. Donc la première chose à la germination, la graine fait sa racine pour être autonome. Dans la graine, elle a eu la réserve, mais très vite, cette réserve, elle s'épuise et il faut que la plante puisse se nourrir par elle-même. Donc elle va d'abord faire une racine. Une carotte, c'est une racine. Ensuite, elle va faire toute sa partie végétative, hein, donc les feuilles et tout ça. Quand elle a bien développé sa partie végétative, elle va faire la fleur après. Et donc, il y a des espèces qui font...
Ça, c'est le sexe.
Voilà, ouais. On va arriver à la partie sexuelle.
Ah, génial. Ça parle pas assez de sexe dans cette émission, je trouve.
Donc, il y a des plantes qui vont faire ça sur une année et d'autres qui vont fleurir l'année d'après. Donc, ça, on va parler de bisannuel, notamment tous les légumes racines.
Les bis. Parlons-en, on n'en parle pas assez dans cette émission.
Voilà. Bon, l'homosexualité, je ne sais pas, ça, je ne connais pas, mais... Excusez-moi. Et donc, j'en étais... Alors, après, la fleur... Donc, quand la fleur, là, on va avoir besoin des insectes ou du vent pour faire la pollinisation. Donc, à l'intérieur de la fleur, il y a la partie femelle et la partie mâle. Donc, la partie femelle, c'est l'ovule. Ça, ça ne change pas. C'est comme chez nous. Et la partie mâle, c'est le grain de pollen qui correspondrait aux spermatozoïdes chez les humains, enfin, chez les animaux. Et ces grains de pollen viennent soit de la même fleur, soit d'une autre fleur, d'une autre plante. Donc là, on parle d'autogame et d'allogame.
Autogame, c'est quand ça vient de la même fleur ou de la même plante.
Ouais.
Et allogame, quand ça vient d'ailleurs.
Voilà. Ouais. En général, la plupart des espèces sont allogames. C'est pour éviter la consanguinité, en fait. Et donc, la plante, le vivant, est toujours là pour favoriser la diversité génétique. C'est sa sauvegarde, en fait. Au jardin, il y a trois espèces d'autogames. Il y a les laitues, les tomates et les haricots. Mais je vais continuer sur le cycle.
Enfin, les trois plus connues parmi les espèces, c'est celle-ci, quoi.
C'est les trois...
Seules, vraiment seules dans,
ouais, dans les potagères.
Bon. Ok.
Au jardin. Okay. Et même dans la nature, l'autogamie, c'est très rare.
D'accord.
Donc, dans le cycle, donc on en est à notre fleur avec ses organes mâles et femelles. Donc, le grain de pollen qui va féconder l'ovule et qui va donner la future graine. Donc ça, quand ça s'est produit dans la fleur, cette fleur va se transformer en fruit. Et oui. Donc, la graine, après la plante, après ses fleurs, va produire ses fruits pour faire grossir ses graines. Donc, quand les graines sont mûres dans le fruit, en fait, ce fruit va... se dessécher ou pas, mais en tout cas va libérer ses graines. C'est la dissémination et c'est comme ça que l'espèce se perpétue en fait, par ses graines. Donc on en était à la définition d'une graine, donc je parlais du cycle, la graine c'est un cycle, et c'est aussi l'organe de reproduction de la plante, mais c'est un organe, comme tu le disais, sexué. Et s'il y a la sexualité qui intervient, ça veut dire qu'il y a aussi la génétique. Contrairement, par exemple, à de la multiplication, qu'on va dire végétative, par exemple les pommes de terre, quand on replante des tubercules, là, il n'y a pas de génétique parce qu'il n'y a pas eu de graines.
Il y a quand même la génétique, c'est juste la même que la plante qu'il y a eu avant, voilà. Quoi, en fait. C'est juste un clonage en version artisanale, quoi.
Ouais. Mais du coup, il n'y a pas un patrimoine génétique brassé. Qui se croise avec un autre patrimoine génétique.
Il n'y a pas de brassage.
Voilà.
Parce que l'intérêt du brassage, c'est que ça permet aussi d'avoir éventuellement de nouvelles variétés, des individus végétaux adaptés à d'autres choses.
Voilà. Ça permet c'est de la génétique qui se brasse en permanence.
Tiens, j'utilisais le mot variété. C'est quoi une variété? Parce que on parle souvent de variété au jardin, mais on n'explique pas trop ce que c'est.
Alors, donner vraiment la définition de variété, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste préciser une chose par rapport aux hybrides dont on a parlé avant. C'est que, bon, nous, au jardin, on ne va travailler que des variétés qui ne sont pas hybrides et qu'on appelle population. où il n'y a pas eu d'intervention génétique de l'homme, en fait. Mais du coup, une variété, c'est...
Ce que tu appelles intervention génétique, c'est une intervention de l'ordre laboratoire. Parce oui. qu'on peut travailler sur des populations qui ont été sélectionnées...
Oui, mais quand on fait de la sélection, comme on a fait depuis des millénaires, en fait, on n'intervient pas dans la cellule.
Voilà, d'accord. Voilà. Il n'y a pas eu de manipulation au niveau cellulaire direct. Okay.
Et donc, l'intérêt de cette semence, de ce cycle, c'est que même si c'est un cycle de la graine à la graine, en fait, chaque année, on démarre un nouveau cycle. Et donc, d'un cycle à un autre, la variété, nos semences, nos plantes, emmagasinent chaque année, à chaque cycle, à chaque génération, emmagasinent de la mémoire de ce que la plante a vécu. On parle d'épigénétique, en fait... et donc, cette mémoire, en plus, elle se transmet à la descendance.
L'épigénétique, c'est le fait que la génétique, telle qu'on l'imaginait il y a encore 25 ans, on considérait que les gènes, c'était un livre fixe, figé. Et que ça ne bougeait plus. L'épigénétique vient remettre en question ça, notamment par le fait que l'environnement peut activer certains gènes, voire même certains végétaux peuvent activer les gènes d'autres végétaux via des ARN messagers, choses comme ça. En fait, c'est un livre, mais dont certains chapitres, ou voire même certaines phrases, peuvent être visibles ou pas, en fonction de l'environnement. Hélène.
Non, juste par rapport à ça, est-ce que c'est ça qui explique qu'on retrouve de la batavia grenobloise au Mali, par exemple, et qu'elle s'y est adaptée ?
Oui, c'est ce qui fait que les végétaux s'adaptent.
Mais ils s'adaptent à l'échelle de leur vie un petit peu, mais surtout à l'échelle de la sélection.
Oui, de plusieurs générations.
Okay. Donc, au jardin, on a des variétés. On n'a toujours pas défini ce que c'est qu'une variété. On n'a pas défini ce que c'est qu'une espèce non plus, d'ailleurs. On pourrait.
Ouais, alors...
on reprend à la base.
Oui, mais du coup, oui. Alors, bon, une variété, on va dire que c'est un ensemble d'individus qui s'interpollinisent, en tout cas sur les végétaux.
Puisqu'ils font partie de la même espèce.
Voilà, qui font partie de la même espèce. S'ils étaient d'espèces différentes, ils ne pourraient pas se reproduire entre eux. Voilà. En tout cas, ça, c'est les concepts de la biologie.
De base, ouais.
Voilà, et une variété, c'est un ensemble d'individus donc, qui s'interpollinisent et qui ont des caractéristiques communes.
D'accord.
Qui va permettre d'identifier cette variété. Par exemple, quand j'ai une variété de tomates cœur de bœuf, donc là, le fruit a une certaine forme. Donc dans des cœurs de bœuf, tu peux en avoir des roses, des oranges, des rouges. Peut-être des jaunes, mais j'en connais pas. Voilà. Et donc la variété tomate cœur de bœuf rouge, eh ben, c'est pas la même que la noire de Crimée ou que la jaune ananas.
En fait, c'est essentiellement des caractères visibles. Une variété, c'est une somme de caractères visibles qui permet, dans une espèce, de faire des sous-catégories.
Voilà, exactement.
Mais la noire de Crimée, alors là, on prend peut-être le mauvais exemple, pourrait être fertile avec un cœur de bœuf, ça donnerait...
Oui, elles sont de la même espèce.
Elles sont de la même espèce.
Mais pas de la même variété.
D'accord, ok.
Tu parles de caractère visible, mais il y a aussi le gustatif, etc.
Alors ça, c'est plus dur pour caractériser une variété, quand même.
Bah, je sais pas, il y a des carottes, par exemple, qui ont des goûts particuliers.
Ouais, peut-être, mais le goût, en fait, c'est tellement relatif au terroir aussi. Et souvent, quand on a fait des essais, le goût, il vient du terroir et de la méthode de culture plus que de la variété des fois. Bon, mais là, on s'éloigne un peu.
On s'éloigne un petit peu, on reste autour du sujet. Donc, la graine, pour revenir au truc, c'est un élément d'un cycle de vie. C'est un stade de vie d'une plante.
On va dire que ce serait presque sa mémoire, en fait.
Et entre autres, c'est ce qui lui permet de traverser le temps et aussi un certain nombre d'épreuves, parce que sous forme de graines, les végétaux peuvent perdurer beaucoup plus longtemps que simplement leur partie végétative.
C'est par exemple plus facile de conserver une variété des graines que des pommes de terre, par exemple.
Oui.
Pommes de terre, si on l'a loupée une année, des fois on peut perdre la variété comme ça. Alors qu'une graine, une fois qu'elle est bien sèche, qu'elle a été bien produite, bien conservée, elle peut effectivement... traverser le temps, comme tu dis, mais elle traverse aussi l'espace, en fait. C'est aussi par les graines que les végétaux ont voyagé ou que les hommes les ont fait voyager. Et s'il n'y avait pas eu les graines qui ont voyagé de tous les continents, notre nourriture ne serait pas aussi riche maintenant.
C'est intéressant cette approche de la graine, parce que souvent quand on parle de la plante enracinée, fixe, figée, mais en réalité ce stade-là redonne de la locomotion, j'ai envie de dire, quelque part, aux plantes et aux végétaux d'une manière générale. Et le passage à travers le temps et l'espace n'a pas du tout la même, c'est pas du tout la même conception que nous. En fait, Hibernatus existe, mais pas chez les êtres humains, c'est ça, en fait, c'est plutôt chez les plantes. On va peut-être aborder la question de la production de semences par nos auditrices et nos auditeurs, nos papis et nos mamies qui écoutent, puisque la dernière fois que tu es venue, on a dit que ceux qui faisaient des graines, c'était des papis et des mamies.
Non, ceux qui avaient conservé des vieilles variétés locales, mais tout le monde fait des graines, même les enfants.
Ah oui?
J'ai une photo dans mes formations où on voit les enfants qui font le battage des graines de laitue, et ils s'éclatent. Et quelqu'un m'avait raconté qu'il parlait de sélection. Son fils de 10 ans avait sélectionné des tomates noires de Crimée en sélectionnant les fruits les plus tordus. Et en 3-4 ans, son fils de 10 ans, donc à la fin il avait plus 10 ans, il avait 14 ans, mais il avait eu des tomates complètement tordues qui étaient devenues immangeables tellement elles étaient tordues.
La contre-sélection, les hackers biologiques, les ados rebelles qui décident de faire des tomates immangeables. Mais pourquoi pas?
Et le monsieur qui m'a appris la sélection dans les boîtes de semences où j'ai travaillé avant me racontait que quand il était petit, en fait, il allait en vacances chez ses grands-parents et son grand-père faisait des haricots et c'était la grand-mère qui triait les graines. Et chaque année, en fait, il y avait des graines noires qui ressortaient au milieu des graines blanches. Et chaque année, sa grand-mère se faisait engueuler, alors qu'elle avait très bien fait son travail. Et juste, il s'est demandé, mais pourquoi ces graines noires ressortent tout le temps au milieu des graines blanches? Et c'est juste que les graines de haricots, la couleur, en fait, est un caractère très mutable, on va dire, tellement le haricot est autogame, la fleur est fermée, qui ne peut pas capter du pollen de l'extérieur, donc il mute à l'intérieur.
Et du coup, la grand-mère, encore elle, se faisait engueuler parce que les haricots mutaient. Voilà, donc cessez donc d'embêter les gens qui font la sélection.
Et Jacques est devenu sélectionneur toute sa vie.
Eh bien, moi, je te propose, c'est qu'on parle sélection, mise en pratique de tout ça juste après notre pause musicale. À tout de suite, Valérie.
Avec plaisir.
Je m'expose, ça tourne au calvaire. Mon amour s'y oppose, elle garde les pieds sur terre. C'est la part des choses que je ne sais pas faire. Mais qu'il cesse de parler, cesse de poser, cesse de croire qu'on ne les a pas levés. La soirée s'éternise, je vois qu'il se fait tard. Ma patience agonise, mon verre se fait rare. Mon amour se ravise, je vois que nous partons. Mais voilà, ça me frise, le maître de maison. Autant qu'il me le dise, car de toute façon je serai le pare-brise et lui le moucheron. We'll be right back.
Couleur FM 97.1. Vous êtes dans Couleur Terre et vous venez d'écouter BRG. L'esprit de l'oiseau vert, c'est le titre de leur album et c'était aussi le titre. Ah non, c'était pas le titre de la chanson. La chanson, c'était Soirée X. Ma foi, on parle de sexe et on fait des soirées X. On en a de la chance
c'est
aujourd'hui. C'est le printemps, hein, ma foi.
Alors, comme des fous.
On s'éclate. Alors, rentrons un peu dans le sujet un peu plus technique de la production de semences. On va pas aborder peut-être. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des spécificités de la production de semences en fonction des espèces? Je suis en train de répondre à la question quelque part en même temps que la peau, j'ai l'impression, parce que je pense qu'on produit
carrément.
Pas. D'accord, ok. Elle me regarde comme si j'avais dit une énormité.
Non.
Mais oui, mais tu sais,
c'est le fait
que
tu doutes
de base.
Qu'il y a une énormité.
Oui, mais c'est pour ça que je disais au moment où je posais la question, je me suis dit, bon voilà. Alors, bon, du coup, on commence à parler de quoi? Hein,
en fait, la nature sait faire la biodiversité, donc heureusement qu'il y a plein de cas de figure différents, comme ça pimente un peu les choses.
Youhou.
Et puis on continue à s'amuser comme des fous et on s'ennuie pas. Donc en fait, à chaque fois il y a plusieurs cas de figure.
D'accord.
Donc comme je disais tout à l'heure, on a des espèces qui sont annuelles et des espèces qui sont bisannuelles.
D'accord.
C'est-à-dire que le cycle de la graine à la graine se fait soit sur la même année. Donc on va dire une tomate, par exemple une laitue, on la sème, la tomate on la sème en mars, et puis on a les fruits l'été, et donc dans les fruits on a les graines, donc là on est dans une annuelle bien, bien sympa.
Ok, faisons une petite pause.
Déjà ?
Ben j'en sais rien, non mais je sais pas, puisque tu parles de la tomate, comment on obtient des graines de tomate ?
Ah non, après,
il faudra qu'on fasse un catalogue, ça va être terrible.
Mais oui, mais si... Non,
ok,
non,
sinon
faut...
tu... Ok, il faut être focalisé, ok.
Ouais. Une bisannuelle, comme je disais tout à l'heure, ça va être plus les légumes qui font de la racine ou qui font de la pomme. Alors, pas de la pomme
blanche-neige,
mais voilà.
Chou rave.
Les carottes, betteraves.
Panais.
Mais les légumes qui font de la pomme, c'est les choux.
Ok.
Le chou rave, il fait une racine, parce que c'est un chou rave.
Ouais.
Bête rave. Mmh. Céleri rave. Ouais. Rave, c'est toujours la racine. Mais tous les choux qui font des pommes, chou-fleurs, voilà. Donc ces espèces-là sont bisannuelles et donc on les plante la première année et on récolte la graine l'année suivante. Et comme je disais tout à l'heure, quand on les mange, en fait, on ne voit pas ça. Mmh. On mange la première partie de la vie de cette plante.
Bon, elle n'est pas arrivée à terme.
Voilà.
Ok. Donc ça, c'est pour les bisannuelles. Et puis...
Alors, après, il y a... Revenons à la sexualité, il y a la partie floraison-pollinisation. Donc il y a des plantes qui sont autogames et des plantes qui sont allogames. Donc comme on a vu tout à l'heure, les plantes autogames s'auto-pollinisent dans la même fleur. Et donc les plus faciles, c'est la laitue, le haricot et certaines variétés de tomates qui n'ont pas des fleurs très ouvertes, comme les variétés de tomates qui ont des gros fruits tout tordus. Celles-là, elles ont des fleurs ouvertes et toutes tordues. Pas tordues, on s'en fout, mais surtout ouvertes. Et du coup, elles peuvent capter beaucoup plus le pollen qui vient d'autres variétés.
D'accord. Je croyais que la tomate, c'était autogame.
Oui, et ben ça n'est pas tant que ça.
D'accord.
Ça dépend des variétés.
Okay.
Donc, pour des espèces qui sont autogames, puisqu'elles s'auto-pollinisent, en fait, la fleur est très fermée. Elles ne peuvent pas capter du pollen extérieur. Mmh. Donc, il y a très peu de chances d'avoir des croisements de variétés. Alors que toutes les autres espèces sont allogames. Et donc, comme le pollen il vient d'une autre plante, et ben, si cette plante est d'une autre variété de la même espèce, il peut y avoir des croisements. Et donc, pour les allogames, on est obligé de respecter des distances d'isolement entre variétés. Ces distances d'isolement sont connues pour chaque espèce.
D'accord.
Ce pollen qui vient d'une autre plante, il peut être transporté soit par les insectes, soit par le vent. Et du coup, il n'a pas la même forme. Les grains de pollen n'ont pas la même forme suivant qu'ils sont transportés par les insectes ou par le vent.
Celui qui est transporté par le vent, il a des petites ailes.
Non, mais il est tout rond, tout lisse.
Ah.
Il est vraiment fait pour glisser. Alors que les pollens des espèces entomophiles, on dit, pollinisés par les insectes.
Crochus.
Oui, exactement. Mais c'est très intéressant, si vous allez sur internet, vous tapez grains de pollen, vous verrez la diversité de grains de pollen qui existent, des photos prises au microscope, c'est fascinant.
Faites-le maintenant, continuez de nous écouter là.
Non, attendez la fin de l'émission.
Non, mais continuez de nous écouter, et puis en même temps, vous pouvez faire ça.
Non, parce que vous n'allez plus nous écouter. Ah, bah, attendez la fin de l'émission, okay, mais vous. Et puis surtout, ça va tellement être fascinant que c'est sûr que vous allez décrocher, vous allez partir pour 2 heures.
Mais tu es fascinante aussi, Valérie. Aucun souci là-dessus. Hein?
Donc, on continue dans les différences. Donc on a vu annuel, bisannuel, on a vu les autogames, allogames et dans les allogames, entomophiles ou anémophiles. C'est des mots très techniques.
Anémophile, c'est pour le vent.
Voilà. Vous n'êtes pas obligé de les retenir, ce n'est pas grave. Par contre, il faut bien comprendre que des autogames, c'est facile, ça s'autopollinise et il n'y a pas besoin d'isolement.
Donc c'est facile d'obtenir des graines qui sont un peu sélectionnées, toujours un peu les mêmes. Voilà.
Et pour les allogames, si vous faites des graines de 2 variétés de couches, vous ne pourrez pas en fait. Il faut des isolements.
Donc si on fait par exemple un potimarron d'un côté et une butternut de l'autre côté qu'on a pris en jardinerie, je sais pas, derrière ça va les graines
mais
qui
t'achètes encore tes graines en jardinerie.
Non,
toi
mais je ne sais pas, je dis pour être sûr qu'elles sont pures. Non mais qu'elles sont de race pure, voilà, derrière
de
en fait
race pure, oh
mon dieu.
De variété population.
Ah, c'est horrible, c'est
allez
horrible.
Reprenons-nous
de variété, en fait, de variété, oh je sais plus, je vais me taire.
Non, ne t'étais surtout pas. Les cucurbitacées, c'est encore spécial parce qu'il y a plusieurs espèces. Et en fait, alors je les connais pas par cœur, hein, mais il y a les cucurbita pepo, maxima et moscata. Donc une courgette, par exemple. Une courge et alors je sais plus si c'est potimarron. J'ai les infos ici. Je vais chercher à la pause et je vous le dirai. Si on peut avoir, et après il y a aussi le melon et le cornichon dans les différentes espèces de cucurbitacées. Si on a une variété de chaque espèce côte à côte, elles ne vont pas se croiser. Par contre, si on a 2 variétés de courgettes, elles vont se croiser. Si on a 2 variétés de courges, elles vont se croiser. Si on a 2 variétés de melon, ils vont se croiser.
Donc, il y a des sous-espèces. Donc, cette idée qu'on ne peut pas mettre des cucurbitacées l'une
c'est
à côté de l'autre.
C'est des espèces. Dans le même
faux.
Genre, il y a
voilà,
différentes espèces.
Il y a différentes familles. Ouais. D'accord, ok, très bien.
Je reprends mes documents à la pause et après, je vous les redonne.
Est-ce voilà. que tu avais d'autres
oui,
différences
Oui, c'est pas fini. C'est ouais, pas fini.
Vas-y.
Donc, après annuel, bisannuel, autogame, allogame. Après, il y a les graines sèches et les graines humides.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il y a des espèces, quand la graine est mûre, elle est dans un fruit qui est sec et qui s'ouvre. C'est la plupart des espèces.
Comme le haricot, par exemple.
Comme le haricot, comme les crucifères, les choux.
La laitue.
La laitue, voilà. Il y a des classifications des fruits suivant différents critères. Et les graines humides, en fait, c'est toutes celles qui sont dans les légumes fruits qu'on mange. Donc la tomate, le melon, la courgette. Voilà, en fait, c'est solanacée que cucurbitacée. Et donc, en fait, on ne va pas récolter et nettoyer les graines de la même façon, suivant qu'elles soient sèches ou humides. Juste pour les tomates, souvent, on va faire une fermentation pour avoir des graines propres. Voilà, ça, c'est une petite technique.
Donc, par exemple, on prend les graines dans un joli fruit de tomate, on les met dans un verre, et puis ensuite, on les laisse fermenter combien de temps ? Quelques jours ?
Alors, on ne fait pas comme dans le livre de Cocopelli qui dit vous les oubliez dans un coin et vous laissez la moisissure blanche se développer dessus. Donc, on prend les graines de fruits, de tomates sélectionnées sur les plantes. C'est mieux si on veut que la variété évolue. Et on enlève les graines. On prend plusieurs fruits quand même et plusieurs plantes tant qu'à faire. Toujours le souci de la variabilité génétique. Gardez bien ça en tête tout le temps.
Faites pas un fruit, c'est ça ?
Voilà. Donc on prend ces graines, on les met dans un verre ou un bocal transparent, comme ça on voit bien ce qui se passe. On rajoute un peu d'eau, à peu près le même volume d'eau. On mélange régulièrement, c'est pareil, c'est une fermentation, il y a besoin d'oxygène. Et en fait, au bout de... Alors en été, ça peut être 24 heures, 48 heures, mais pas beaucoup plus. On va voir en fait les graines qui se séparent du mucilage qui les entoure dans le fruit. Ce mucilage, c'est un antigerminatif. Donc la fermentation, c'est de séparer la graine de ce mucilage. Quand la fermentation est bien faite, on voit les graines qui se séparent. Donc tout le surnageant, le rouge, la chair, la pulpe qui est au-dessus. Les graines bien séparées qui sont au fond. Quand on tourne et qu'on voit que ça se sépare bien, c'est pas la peine d'attendre plus longtemps. On rince abondamment. on les met dans un chinois, une passoire. Là. Soit on laisse sécher dans la passoire, soit on met sur un torchon, sur une assiette.
Moi, mon grand-père, il mettait ça sur des plaques de verre. Il mettait il les étalait sur les plaques de verre pour pouvoir après les racler et pas forcément avoir besoin parce que ça collait des fois.
Parce qu'il n'avait pas fait la fermentation. Alors, c'est pas obligé de faire la fermentation. Mais en fait, l'avantage, c'est que déjà, si on veut faire une grosse quantité de graines, parce qu'on n'est pas obligé de faire les graines chaque année sur les tomates, ça se conserve 3-4 ans. Si on veut faire une grosse quantité de graines pour bien les stocker, du fait que la graine a été séparée de son mucilage, c'est plus facile de les stocker. Voilà dans les différentes catégories. Donc vous voyez, il y a de quoi s'amuser.
Ça, c'est pareil sur le melon, par exemple. Faut les laisser fermenter. Il n'y a pas de mucilage sur le melon.
Si, un peu. Si tu regardes bien, il y a une enveloppe autour de la graine. Ouais.
D'accord. Donc pareil, il faut la laisser fermenter.
Ouais,
un petit
pas
peu.
Trop longtemps. Le melon, la graine est beaucoup plus fragile que la tomate.
D'accord, ok. Donc moins longtemps. Et puis pareil, après, on laisse bien sécher. De toute façon, quelles que soient les graines qu'on récupère, il faut que ce soit sec pour le stockage.
Exactement. Ouais. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure quand on parlait des graines, c'est que pourquoi la graine est un organe de conservation ? C'est parce que c'est un organe qui est à 12-15% d'humidité. Donc il y a 12% d'eau dans la graine. Mm-hmm. Alors que tout ce qui est vivant est à peu près à... Enfin, vivant et actif, je ne sais pas comment dire. On est à 80% d'eau, nous. Mm. Et c'est comme ça que la graine se conserve. Et plus elle est sèche, plus elle va se conserver longtemps.
D'accord.
Donc ça, c'est une des règles principales pour pouvoir bien conserver les graines. C'est les récolter au bon stade de maturité, donc quand la graine se détache du fruit, et après bien faire sécher. Sinon, ça peut, si on les enferme et qu'elles sont encore humides, ça peut fermenter.
C'est catastrophique, ça moisit tout. Ouais, Ça m'est arrivé une fois, c'était très moche. À faire sécher au soleil ou juste
Non, alors ce qui fait sécher les graines, c'est pas le soleil. En fait, le soleil, ça les cuit et ça va réduire le temps de conservation. C'est le renouvellement de l'air dans un endroit très sec et aéré.
Au séchoir, par exemple, très basse température, ça peut se faire.
Non, c'est non, mieux vraiment. Que ce soit progressif.
Vraiment à l'air, à l'air, quoi. Ouais, donc en fait, dans un endroit aéré, mais sans à l'ombre.
Voilà, tranquille, mais aéré, surtout pas confiné.
Ok. Bon.
Ça,
donc,
c'est pareil, c'est une règle.
Un dessus de meuble, par exemple, dans la cuisine, ça peut le faire.
Ouais, même dehors. Hein.
Dehors, d'accord.
À l'abri du vent.
Et de la pluie.
Évidemment, et de la pluie, bien sûr. Ouais.
Ok. D'accord.
À côté d'une fenêtre, si on n'a pas de jardin ou quoi.
Ok. Donc toutes les graines à mucilage, donc cucurbitacées, solanacées, un petit temps de fermentation.
Solanacées,
c'est les aubergines, les tomates, les poivrons. Non,
bah
poivrons,
non, c'est
capsicum, c'est sec. Ouais, c'est pas des solanacées. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme les solanacées, les pommes de terre, mais de toute façon on ne va pas faire tellement de graines de pommes de terre.
Non, on ne va pas parler de pommes de terre.
Non, je ne crois pas.
Par contre, l'aubergine, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a beaucoup de légumes fruits qu'on consomme, qu'on mange quand la graine n'est pas mûre.
Bah, les haricots verts, par exemple.
Les haricots verts, mais aussi les aubergines, les courgettes. Donc ce qui est mûr, c'est les melons, c'est les courges. Voilà, mais les aubergines, en fait, une aubergine mûre, elle est presque... C'est avant qu'elle soit pourrie. Une courgette mûre, elle fait trois fois le volume, elle devient jaune-orange, elle se détache de la plante. Les cucurbitacées, c'est ça, hein, ça se détache de la plante. Voilà, et l'aubergine, oui, il faut la laisser aller très très loin. Et des fois, quand on est dans des régions trop froides, on ne peut pas faire de la graine d'aubergine.
Ouais, parce qu'elle n'a pas le temps d'arriver jusqu'à maturité.
Ouais.
Ok.
Voilà.
Eh bien, une petite pause musicale avec BRG et puis ben, on continue de parler semences.
Je suis là, un regard posé sur toi, une parole prononcée au hasard. Une idée, juste une idée qui passe. Un mot qui percute. Un son qui réveille. Je te parle pendant ton sommeil. trace, la vision d'un chaman en transe. Je suis l'accident qui te sauve la vie, un rayon de soleil, une goutte de pluie, le sourire d'un passant. Je suis la fée clochette, un regard bienveillant, oui, Jiminy Cricket. Je suis là, je suis l'ange du silence. Quand tu n'as plus peur de perdre, je deviens une évidence. Je suis le décapsuleur de ta boîte crânienne, le plus beau rêve de tes nuits sereines. Je suis tout, tout, je ne suis rien. L'étoile que tu suis pour trouver ton chemin. Une parole éphémère, je suis libre, je suis libre. Je suis comme toi, je suis après, je suis avant, je suis derrière. Je suis devant, aujourd'hui, hier, demain. Un éclair de génie, gardien de ton destin. L'esprit de l'oiseau rêve, je suis un coup de guerre. Je suis là dans le ciel qui marche dans tes pas. Je suis l'aigle dans le ciel qui marche dans tes pas. Je suis l'aigle dans le ciel qui marche dans tes pas. Je suis l'aigle dans le ciel qui marche dans tes pas. Je suis l'aigle dans le ciel qui marche dans tes pas. Je suis l'aigle dans le ciel qui marche dans tes pas. Je suis l'aigle dans le ciel qui marche dans tes pas. Je suis l'aigle dans le ciel qui marche dans tes pas.
Couleur FM 97.1. Vous êtes dans Couleur Terre. Nous parlons aujourd'hui semences et vous venez d'entendre BRG, qui est, cette fois-ci, vous avez entendu le titre éponyme de l'album L'Esprit de l'Oiseau Vert. Alors pendant la pause, elle vous l'avait promis, elle l'a fait, elle a cherché dans ses petits papiers pour vous parler de Cucurbitacée.
Voilà.
Valérie Abadzian.
Dans le genre Cucurbita, ouais, nous avons l'espèce Pepo, qui correspond aux courgettes, citrouilles et coloquintes. Attention les coloquintes, quand ça se croise, après ça devient immangeable. Ensuite, on a Cucurbita maxima, qui correspond au potiron et potimarron. Et nous avons Cucurbita moscata, qui correspond à la courge musquée, la sucrine du Berry, la longue de Nice et la butternut. Donc une de chaque côte à côte, il n'y a pas de problème, ça ne se croise pas. Une courgette, un pâtisson, une courge spaghetti, et ben ça devient, et des coloquintes au milieu, ça devient un gros bordel, parce que tout ça, c'est Cucurbita pepo.
Ah mon Dieu, quelle journée. On parle de sexe et de lupanard, mon Dieu, c'est incroyable. Enfin moi, je vais arrêter de faire du blasphème par-dessus tout ça. Une de chaque, c'est très bien. Une de la même espèce, et il faut pas les mettre en voisin. On a parlé de la tomate un petit peu, sur comment récolter la semence de tomate. On a signalé qu'il fallait attendre la période de la semence soit comme le fruit bien mature, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on récolte bien avant. Allons un peu plus allons sur une autre espèce. Commençons par une espèce simple, la laitue.
Oui, voilà. Si vous voulez commencer à vous amuser à faire des graines, parce que faut vraiment que ça reste un plaisir. Hein. qu'est-ce qui est facile? Ça va être les autogames annuels. Donc, vous avez laitue, haricot et tomate. Donc, sur de la laitue, alors sur ces trois espèces, ce qui est intéressant, c'est que en même temps, bon, si elles sont autogames, c'est que ça fait longtemps qu'elles ont été travaillées par l'homme. Et du coup, c'est aussi là où il y a plein de variétés. Donc même si vous faites les graines les plus faciles, vous avez de quoi vous amuser et échanger dans les trocs de graines. Donc si on prend la laitue, ben là c'est pareil, la laitue, vous avez l'habitude de la manger au stade feuille. Donc elle est vraiment dans les premiers stades de la plante. Et si vous sélectionnez des laitues qui correspondent bien à la variété que vous avez et que vous les laissez monter à graines, et ben elles vont faire des hampes florales plein de fleurs, et ces fleurs vont s'auto-polliniser. Et une fois qu'elle est auto-pollinisée, en fait c'est, alors on dit une fleur, mais en fait botaniquement c'est un capitule, hein, c'est un ensemble de fleurs. Donc ce capitule, une fois auto-pollinisé, se referme, et à l'intérieur, ce qu'on ne verra pas, mais les graines vont mûrir.
Comme dans un pissenlit.
Exactement, c'est exactement le pissenlit avec, je crois que c'est sur la rousse, là où on voit les graines qui s'éparpillent.
Avec le petit papus qui fait le petit...
La petite aigrette.
Voilà. Petit parachute.
Et donc, comme sur... Alors, sauf que le pissenlit, en fait, il y a un capitule. Et puis, voilà, bon, des fois, il y en a deux ou trois en même temps. Mais... Alors que sur la plante de laitue, il y a des centaines de capitules qui ne seront pas mûres en même temps. Ah bah oui, sinon ce serait trop mal. C'est pas marrant. Donc, tout l'enjeu est de savoir à quel moment on récolte nos plantes, nos hampes florales, au moment où on aura le maximum de graines mûres. Avant, si on arrive avant, les graines ne sont pas mûres, et si on récolte des graines pas mûres, elles ne germeront pas. Si on arrive trop tard, parce qu'on est parti en vacances, eh ben, les graines elles seront au sol, donc vous aurez un semis naturel, mais très dense l'année d'après.
Oui, parce que pour ramasser des graines de laitue au sol, bon courage. Hein,
voilà.
T'as intérêt de te faire aider des fourmis. Parce que...
Et tout à l'heure, tu parlais d'une graine sans graines derrière, mais la laitue, c'est des milliers de graines. Savoir. Voilà, donc si on arrive et que les milliers de graines sont au sol, donc il faut en fait couper quand le maximum de capitules sont blancs, donc ouverts avec les aigrettes qui sont prêtes à se détacher, mais qui sont encore un peu sur le plan quand même.
Il faut être là, quoi.
Ouais, il faut être là. Il faut surveiller la météo. S'il va y avoir des gros orages, eh ben on ramasse avant. Donc, quand on ramasse, en fait, on n'arrache pas, on coupe avec le sécateur à 20 cm du sol pour éviter d'avoir la boue. La boue, il fallait accrocher aux
le
plantes,
sable,
là.
Tout ou, ça,
voilà. Oui. Parce qu'après, tout ça, il faudra le nettoyer. Et si on arrachait, en fait, le fait de donner des à-coups aussi, ça peut faire tomber les graines. Donc, on coupe à 20 cm au-dessus du sol. On a la poubelle ou le seau à côté. Et on prend la plante, les hampes florales, on retourne et on tape très fort dans la poubelle ou le seau. Et là vont tomber toutes les aigrettes et les graines qui sont au bout des capitules mûres. Il va rester des capitules sur la plante. Si on n'a pas assez de graines avec les milliers de graines qu'on a déjà dans notre seau, on peut garder ça 3 ou 4 jours après, on aura encore des capitules mûres, on refait un battage et après on jette. Les dernières graines, on ne les veut pas parce que de toute façon, c'est les moins bonnes graines.
Elles ne sont pas mûres.
Voilà. Donc, la qualité de la graine, c'est un compromis avec la quantité. Il faut savoir perdre des graines pour avoir des bonnes graines. Donc, dans notre seau ou notre poubelle, on a toutes les...
C'est quoi une bonne graine ?
C'est une graine qui a... qui est bien... Ah, oui, non, mais...
Après, il y a 5 minutes d'émission.
Je finis mes graines de laitue, le battage et tout. Donc, au fond, on a les aigrettes et les graines et plein d'insectes. Donc, on laisse ça une journée, on laisse tous les insectes partir, on laisse sécher parce que après, on va vouloir séparer les graines des aigrettes. Et si on fait ça le jour même, comme la laitue, c'est une plante à latex, et ben on va avoir une grosse boule toute bien collée. Alors que le lendemain, c'est bien sec, on peut séparer les graines des aigrettes, on souffle et après on a des graines toutes pratiquement propres. Quoi. Un coup de tamis et on a les graines propres.
Petit tamis fin et puis c'est tout bon.
Voilà.
Alors après, c'est maintenant. C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait une bonne graine ?
Alors qu'est-ce qui fait une bonne graine ? La qualité d'une graine, déjà, donc une bonne faculté germinative, tant qu'à faire, hein, autant qu'elle germe et qu'elle germe bien et qu'elle soit bien dodue, qu'elle ait de bonnes réserves pour une graine qui germe vite.
D'accord.
Donc ça veut dire récolter au bon stade de maturité. Mmh. Comme je vous disais, si c'est trop tôt, ça ne germera pas, trop tard, on va perdre les graines. Plus des bonnes conditions de conservation. Donc on conserve à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité.
Okay.
Voilà, ça c'est vraiment indispensable. Après, une bonne graine, c'est aussi des graines qui sont caractéristiques de la variété. Donc, on a évité les croisements et on a respecté les distances d'isolement entre variétés de la même espèce, d'une espèce allogame.
Ça va très loin parce que typiquement sur les cucurbitacées, je crois qu'il y en a, il y a 1000-1500 mètres.
Oui, voilà, exactement. Donc, si on est dans un jardin entouré de jardins, c'est pas à peine de faire des courgettes, on n'aura pas quoi.
C'est difficile.
Voilà.
Ok. Il nous reste peu de temps. Est-ce qu'en l'espace de deux minutes, tu peux nous parler de la fabrication de semences pour les carottes? Tu penses qu'en deux minutes, c'est jouable pour toi?
Bah, en disant vite fait, ouais. Alors, c'est-à-dire que comme la carotte, c'est une bisannuelle, c'est une allogame. Donc bisannuelle, ça veut dire qu'elle va passer l'hiver au stade carotte, donc racine. Donc soit on sort les racines, donc les carottes, de la terre et on les stocke. Et après, on ne replante que les bonnes racines. Celles qui correspondent à la variété, qui se sont bien conservées. Voilà, donc on peut faire la sélection sur les racines et sur la conservation. Et on les replante dans un endroit qui du coup sera spécifique à la semence. Sinon, on peut les laisser en place, mais on ne peut pas faire la sélection sur les racines. Et après, bah, la carotte, il faut savoir qu'une plante de carotte, ça peut faire un mètre de haut et puis, je sais pas, 60 cm de diamètre. Mm-hmm. Donc, les replanter, vraiment pas serrées du tout. Et la spécificité de la carotte, tant qu'à faire, c'est qu'elle se croise avec la carotte sauvage. Ah. Donc, il n'y a pas des carottes sauvages partout en France, je crois. Il faut vérifier chez vous s'il y a des carottes sauvages. Alors, la caractéristique de la carotte sauvage, c'est qu'au centre de l'ombelle, en fait, il y a un petit point rouge. Voilà, ombelle blanche avec un petit point rouge au centre. Donc ça, c'est de la carotte sauvage. Et donc, notre carotte peut se croiser avec la carotte sauvage. Il faut vérifier qu'elles fleurissent ensemble ou pas. Et en plus, il y a différents types d'ombelles. Donc sur les ombellifères, on ne récolte que sur les ombelles les plus grosses qui sont au centre. C'est les meilleures graines.
Et puis, ben, comme pour la laitue, on coupe à 20 cm, on met dans la poubelle, on secoue, c'est ça? Il y a de ça aussi?
Non, parce que non, là, on récolte les ombelles, on les stocke pas trop entassées sur un plateau, des choses comme ça. On les laisse finir de mûrir et après, il y a juste à frotter.
D'accord, et ça
parce tombe. Qu'elles sont, ouais, elles sont pas dans un fruit, les graines, elles sont libres comme ça.
C'est des graines un peu plus grosses.
Oui.
Non,
oui.
Que la laitue.
Oui, et c'est plein de petits piquants. Ah, une chose aussi, munissez-vous d'une loupe et passez du temps à regarder les graines, c'est absolument magnifique.
C'est bien d'avoir des passionnés comme ça.
Oui.
Est-ce que tu aurais des lectures à nous conseiller? Parce que du coup, là, j'ai l'impression qu'on n'a fait qu'effleurer le sujet. Alors, sachez, chers auditeurs, que quand on a eu Valérie tout à l'heure, elle nous a dit « Ah, mais moi, je ne pourrais pas tenir le temps là-dessus. » En fait, on pourrait l'avoir, je suis sûr, encore deux émissions de plus, ça pourrait le faire. Alors, est-ce que tu as des lectures à nous conseiller pour qu'on puisse aller plus loin là-dessus?
Vous verrez quand vous allez commencer. Après, c'est un virus. C'est irréversible. Donc, il y a la Bible.
Ah, la Bible.
Ah ouais, la Bible, ça s'appelle « Produire ses graines bio », c'est aux éditions Terre Vivante.
C'est donc, qui a écrit ça?
C'est Christian Bouet, qui est un des fondateurs du Biogerme. Donc, dans ce livre, il y a 30 ans d'expérience de production de semences de qualité commerciale. Et il y a en plus de la philosophie, de l'humour, de la poésie. Et il y a 14 photos à moi. Mais c'est pas pour ça que je le conseille. C'est vraiment... voilà, il y en a plusieurs qui ont ça comme livre de chevet. Il y a toutes les données techniques. Tous les mots que je vous ai dit que vous n'avez pas retenu, c'est pas grave. Les distances d'isolement, tout ça, vous le trouvez dans ce livre.
Produire ses graines bio de Christian Bouet aux éditions Terre Vivante. Merci beaucoup, Valérie.
Voilà, et ben avec plaisir. Et bonnes graines.
Merci. À bientôt, Titane.
À bientôt. Merci, Floem.
C'était couleur.
Et Laurent.
Et puis oui, bah oui, il y avait Laurent qui est à la technique. Et puis aujourd'hui, on avait même du public. On avait même eu des gens qui venaient nous regarder. On était contents. C'était donc Couleur Terre, une émission pollinisée grâce aux moyens techniques de Couleur FM en Isère. Une émission préparée par Titane Houben avec Laurent Forcheron à la technique. Merci à lui. Animée par Flo Emsev de Radio Permaculture avec Hélène Ollard. Et aujourd'hui, Valérie Abadzian qui est technicienne semences, qui donne des formations.
Graines à venir.
Oui, donne-nous un peu tes coordonnées parce que du coup...
Oui, en fait, moi j'habite à Romans en Isère et donc je travaille sous le nom de Graines à venir. Donc je fais aussi des formations à la production de semences pour jardiniers et maraîchers.
Autant dire que vous avez une bonne adresse. Vous pouvez réécouter cette émission, la télécharger mais aussi la soutenir sur radioperma.org, tout comme vous pouvez vous inscrire à nos lettres de nouvelles pour recevoir directement nos nouvelles productions Couleur Terre. Cultivons la vie.
terre, cultivons la vie, une émission animée par Hélène Hollard, spécialiste en agroécologie, Floem Sève, spécialiste en permaculture, et Lucie Aubin, journaliste, tous deux à retrouver sur Radio Permaculture et avec bien sûr notre ami fidèle Laurent à la technique.
Adressé aux jardiniers chevronnés, en devenir ou tout simplement aux curieux ou dépassés par leur jardin, une émission qui sera à votre écoute, à vos questionnements, en donnant de fertiles matières à réflexion.
Comment respecter la vie et intégrer ce respect dans nos pratiques culturelles, économiques et sociales?
Comment construire une agriculture saine et vivante, indispensable à l'humanité, et trouver une autre compréhension de l'écosystème urbain et rural?
Et pour ce faire, une équipe de choc et diversifiée se réunit à ce micro pour partager ensemble ses savoirs spécifiques.